Africa.
La maraboutique de Manu Dibango sur Africa Radio avec Robert Brazza.
Maraboutique du dimanche matin, nous avons l'habitude de prendre notre chère Bastille.
Musicalement, à défaut de prendre la grande halle de la Villette avec quelques politiques et quelques personnalités du monde, pour parler de la paix, ce fameux forum de la paix, je disais, de Amanou, qui a réuni beaucoup de chefs d'État, notamment des chefs d'État du continent africain. Et alors, une question qui revenait non seulement au micro de Francis Aloupo et Stéphanie Hartmann, mais aussi dans nos oreilles, c'est forum de la paix, loin de ce continent qui est le nôtre et qui connaît tant de turpitudes, avec il y a quelques jours encore une attaque horrible du côté du Burkina Faso, avec plus de 38 personnes tuées. Et on se demande d'ailleurs où tout ça va nous mener.
Moi, je pose la question, en fait, pour faire la paix, il faut fatalement passer par la guerre. Je ne sais pas. Parce que, naturellement, quand on parle de paix, tout le monde aimerait vivre en paix. Mais voilà, il y a le problème des armes. Comme ce n'est pas un don de la nature, les armes.
Non, apparemment.
Bon, est-ce que ça va ensemble ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'harmonie dans tout ça ? On veut la paix, mais à quel moment est-ce que les armes vont s'arrêter ? Je ne sais pas, on peut se poser la question ce dimanche matin, parce que les deux, est-ce qu'ils sont compatibles, la paix et les armes ?
Alors qu'en début de semaine, on revenait sur cet armistice qui signait la fin de la Première Guerre mondiale avec les commémorations dites habituelles, avec sur certaines chaînes du câble, comme on dit, le retour sur la mémoire de ces gens venus d'ailleurs, qu'on appelait tirailleurs sénégalais de manière générique, et tout le monde de se dire, 101 ans après cet armistice, où en sommes-nous ? Et quel est le regard d'ailleurs que l'Occident peut porter sur ces combattants venus de loin et sur les combattants ?
S'ils se posent encore des questions, parce que la mémoire, elle a tendance des fois
à être très très sélective.
Voilà, et puis à disparaître au bon moment et tout ça. C'est des questions qu'on peut se poser. Et puis je crois que c'est l'éternel de l'être humain, détruire pour peut-être mieux bâtir. Peut-être que c'est ça. Il faut espérer que une fois qu'on a détruit, peut-être que on va construire mieux avant de détruire à nouveau. Il y a un cycle sur cette terre qui fait qu'il faut les deux, peut-être.
Les deux, peut-être, pourrait-on dire, de Amanou. Et puis, alors, retour également en parlant de paix et en parlant du monde et de la manière dont les choses se trament. C'est une réflexion qui est posée par quelqu'un qui est un éminent personnage au niveau clérical. Il s'agit du cardinal Robert Sarah. Mmh. Robert Sarah, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien encore, il est préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements.
C'est un, wow.
Voilà, il a été donc consacré à l'époque donc, par le prédécesseur du pape François. Et il a un ouvrage qui vient de sortir, qui vaut le détour, qui s'appelle « Le soir approche ». Et déjà, le jour baisse. Alors, quand on regarde la couverture, on a l'impression que c'est peut-être le propos d'un homme qui, évidemment, est arrivé au niveau clérical à une certaine hiérarchie en ce qui concerne le Vatican. Mais en fait, c'est une lecture par rapport à la situation du monde. À la racine de l'effondrement de l'Occident, il y a une crise culturelle et identitaire avec un Occident qui ne sait plus qui il est, parce qu'il ne sait plus surtout qui l'aura façonné ou qui aura contribué à le faire. Et c'est la réflexion d'un prélat qui, à mon avis, va beaucoup faire parler, parce que lui, il a un regard forcément philosophique, théologique, c'est un homme de Dieu.
Oui, c'est un peu Sodome et Gomorre qui revient.
Mais il jette un pavé dans la mare, en fait, qui ne va pas forcément plaire à tout le monde. Parce que lorsqu'il parle de cet Occident qui regarde peut-être de loin des contrées qui... elles traversent des graves crises et autres, elles sont peut-être plus proches de lui qu'il ne le pense.
Tu vois, tout le monde est arrivé au fait qu'il faut changer de logiciel. Mm-hmm. Voilà, mais le logiciel, le nouveau logiciel, on ne sait pas comment ni d'où il va venir. Et c'est ça le problème, parce que jusqu'à présent, pendant 3000 ans, le logiciel était toujours de ce côté-ci. Mm-hmm. Bon, est-ce que... le nouveau logiciel va venir d'un pays tiers, d'un autre continent et tout ça. Vraiment, tout le monde se pose la question du... C'est un peu ça. Hein. c'est pas le crépuscule des dieux, mais c'est pas loin.
C'est
Wagner,
pas loin.
Wagner était déjà pas hein, Wagner, il était pas loin. Hein.
Et il parle donc justement ben aussi de cet Occident qui ne connaît pas ses racines, qui ne sait pas finalement d'où il aura pu tirer cette force et d'où il aura pu tirer, j'allais dire, cette dimension qu'il a aujourd'hui. Alors c'est la lecture de quelqu'un qui est, voilà, qui est un prélat, mais qui est en même temps qui pose un propos aussi très politique. Et cette affirmation, eh bien, c'est celle qu'on a pu lire dans beaucoup, beaucoup de livres et beaucoup d'œuvres. Et c'est une réflexion qui est vraiment, qui mérite le détour. C'est paru aux éditions Fayard. C'est quelqu'un qui mérite d'être lu. C'est pas son premier livre d'ailleurs. Et je sais que celui qui est avec nous dans les studios ce dimanche a un œil dessus. Inspecteur Makossa, bonjour. Il a regardé la couverture et s'est dit tiens.
Là vraiment, je découvre quelque chose. C'est une nuit. Tu sais pas ce que je te dois.
Alors j'ai d'ailleurs la liberté, d'ailleurs je me suis dit je vais en prendre 3 exemplaires. Alors j'en avais un sous le coude parce que je l'avais amené, mais il y en a 2 autres au chaud et il devrait intéresser beaucoup de monde de Amanou dans la maison.
Oui, dans la maison déjà, et puis peut-être pour ceux qui nous écoutent, tous les dimanches matin on essaie de vous donner ce qu'on appelle une valeur ajoutée. À simplement écouter la musique, bien sûr, mais ce sont d'autres musiques qu'on vous propose en même temps. Ce ne sont pas toujours des do-ré-mi, mais ce sont des musiques qui sortent des livres, du papier, avec de temps en temps des spécialistes, des chefs d'orchestre d'une autre façon, quoi. J'appelle ça vraiment valeur ajoutée parce que c'est bien d'écouter la musique, le confort, de danser, tout ça. C'est bien aussi d'écouter des choses comme tu es en train de parler là et que nous allons parler aussi des articles, aussi de ben des livres qui sortent de temps en temps parce que de plus en plus il semble que les livres en ce moment prennent un succès terrible dans la vie des gens.
Et oui, et il est temps d'ailleurs, alors il y a les livres, il y a aussi les quotidiens, oui. Je fais exprès de faire froisser le papier au micro Hugo, parce que c'est vrai que Salah Eddine Gakou et toi aimez beaucoup le digital, mais des fois c'est bien d'avoir son canard sous le bras, et là de Amanou et Inspecta, vous êtes tombés sur le Libé donc, qui est paru jeudi dernier, donc chez nos amis de Libération, sur analyse et ces lignes signées d'Achille Mbembe. Alors Achille Mbembe c'est évidemment quelqu'un, un spectacle qu'on ne présente plus. Je te laisse le dire, parce que tu as le sourire, mais c'est une plume, voilà, qu'on connaît bien.
Ah, Achille Mbembe, c'est un historien des temps modernes. Hein. Temps modernes, non pas modernes au sens philosophique, on va dire quasiment des temps coloniaux. Donc on va dire depuis le partage de l'Afrique à Berlin, jusqu'à notre époque. Mais il a aussi quelques tendances à faire ce qu'on va dire de la philosophie. C'est d'essayer d'expliquer des idées d'une époque contre une autre. Donc il est un peu dans ce qu'on appelle plutôt l'anthropologie. Bon, c'est pas étonnant qu'ils aient le chercher, parce que dans cette génération, en fait, il n'y en a pas d'autre.
C'est vrai, j'allais te dire que
faut pas chercher.
Lui, au moins, ici
il
en
ose,
France...
Il ose, mais...
Ici en France, il a une plume qui est reconnue, parce que souvent, on fait appel à lui, et c'est l'un des rares, en fait.
Il a plein de contemporains d'associés, mais pour l'instant, on n'en parle pas, on parle que de lui.
Ouais, mais
c'est pas
bien.
Plus mal.
Voilà.
Alors peut-être aussi parce qu'il a un propos des fois, ou même pas des fois, mais qui est aussi assez coup de poing. Quand on tombe sur ce titre et sur évidemment cet intitulé, peut-on être étranger chez soi ? Alors il jette un pavé dans la mare pour certains, mais il dit tout juste. Et pour lire d'ailleurs le chapeau, l'Afrique doit être la première à libérer les circulations, à élaguer les frontières héritées de la colonisation, à refonder entièrement la politique des visas d'un pays à l'autre du continent pour ne plus dépendre des diktats de l'Europe et fonder enfin un droit à l'hospitalité.
Ça, c'est une façon très contemporaine chez lui, un peu codée. Il commente le premier texte qui fabrique l'histoire contemporaine des États-Unis. C'est William Edgar Dubois qui écrit « The Soul of Black Folks » où il pose la question « Qu'est-ce que tu fais dans ta vie ?» lorsque ton problème, c'est d'être un problème dans le pays où tu es né.
Ça, c'est pas
bon. Ben ouais.
Alors, Du Bois, c'est évidemment à lire. C'est quelqu'un qui a des écrits qui font figure de Bible pour ceux qui ont étudié la civilisation américaine, comme votre humble serviteur au micro.
C'est une collection de 20 articles qu'il a publié en 1903. Achille Mbembe reprend ça, mais on va dire presque un siècle après, en installant ça dans le champ de l'Afrique aujourd'hui, au seuil de la mondialisation et de l'immigration.
Bah, tu vois, tout à l'heure, on parlait des reprises de musique. Des Franco, par d'autres musiciens.
Bravo, bravo, bravo. Mais là, c'est lui qui m'a aidé par sa question. Voilà, parce qu'il a lu textuellement la question que Libé a...
A reformulé.
Je n'ai pas dit, Achille ne me le dit pas, mais il contemporanise une question qui a été formée par le monsieur qui a inventé l'histoire du monde noir contemporain.
Et Libération de Amano est quand même très malin, parce que finalement, quand on regarde, il suffit pas d'aller très très loin, hein, c'est vraiment juste deux pages après, en ce qui concerne les idées, et puis c'est signé par Alain Duhamel, qui est quelqu'un dont on connaît les joutes oratoires sur les plateaux de télé à l'époque, le fameux débat à l'époque avec nos présidents français. Le vieillissement de la population européenne contrastant cruellement avec l'exubérance démographique des autres continents, contribue lui
notamment
aussi,
le continent africain
à oui. cette sourde anxiété.
Ça, alors, c'est ça... la fameuse anxiété, la théorie de la peur du grand remplacement que nous a vendu Renaud Camus et d'autres gens. Oui, c'est un grand souci en Europe de savoir qu'il y a une population qui vieillit et une immigration qui frappe aux portes. Les deux, Bernie de Bangou va appeler ça du Twist ou du Dierk ou du Charleston, je ne sais pas.
Le problème, c'est que...
Ça les fait swinguer.
Le problème, c'est que ce parallèle-là est bizarre. Il est complètement bizarre, mais enfin, ça, on va pas s'étendre dessus. C'est vrai qu'on les associe, mais c'est une drôle d'association.
Ben, à chaque moment des temps contemporains, il y a eu un discours sur nous. On a connu le fardeau de l'homme blanc, on a connu le sanglot, maintenant on connaît le grand remplacement.
Alors il y a par contre une surprise incroyable, pour dire qu'on nous écoute vraiment au-delà des océans, de Amanou et du côté des États-Unis. Une carte qui arrive un matin, elle est signée donc de Dominique Sigoko. C'est une dame donc qui réside aujourd'hui à Mokena du côté des États-Unis. Dominique Sigoko qui est née au Cameroun d'un papa pharmacien et d'une mère qui travaille au ministère de l'Urbanisme, qui arrive à 18 ans en passant donc en allant d'abord au Mali pour faire des études et ensuite en France. Et des États-Unis, elle jette un regard sur son parcours qui se résume aujourd'hui dans un livre qui s'appelle « De mon cauchemar français à mon rêve américain, ma vie d'immigré légal ». Ou comment est-on outillé donc pour pouvoir exercer ce métier ? Finalement, eh bien, il y a toujours peut-être ce regard, ces cales de la société, c'est écrit avec une sincérité vraiment incroyable.
C'est une autre Miano, quoi.
Ben voilà, à sa manière, et qui dit les choses en parlant justement de tout ce qu'elle aura pu finalement traverser. Elle parle en tout cas de ce périple. Elle parlait de pouvoir réaliser un rêve en travaillant notamment au niveau de l'OMS, raison pour laquelle elle était venue en France. Elle dit ceci, mais contrairement au Mali, la France me rejeta, me refusa le droit de m'identifier à sa culture, qui faisait malgré tout partie de la mienne. Je décidai alors de quitter la France pour les États-Unis, qui acceptèrent pleinement ma différence, et mieux encore, qui m'accueillirent. Et c'est vraiment un livre qui va faire parler. Elle a tenu à nous l'envoyer parce que des États-Unis...
Ah, je pense que l'auteur de Soul Mako, ça peut nous faire un commentaire des deux statuts.
Non, mais on peut dire beaucoup de choses parce que n'oublie pas que derrière les États-Unis, il y a la destruction, destruction des Indiens.
Ah oui, alors là...
Bon. Voilà, donc chacun a son propre fardeau, tu vois. On peut faire des synthèses, mais en faisant ces synthèses, n'oublions pas non plus ce que c'est que les États-Unis. À un moment donné, la tare historique des États-Unis, ils ont les Indiens sur leur dos, si je peux dire. Ici, on a une révolution qui a coupé le roi 16, Louis 16. Les parcours sont pas les mêmes, mais il y a Lafayette qui nous unit à un moment donné, qui les unit à un moment donné, pour des raisons multiples d'ailleurs.
Il faut surtout dire ici, c'est l'occasion jamais de rappeler à tout le monde descendant de Noirs ou d'Afro quelque chose, que en Amérique du Sud comme en Amérique du Nord, la plupart des Noirs qui fuyaient l'esclavage, qui devenaient ce qu'on appelle les fugitifs, ont été accueillis, familiarisés, intégrés dans des familles d'Indiens Caraïbes. Nous leur devons ça avant Jésus-Christ.
Oui, il y a des musiciens.
Avant Nkrumah, avant Lumumba, nous devons cette dette-là, nous tous noirs, aux Indiens Caraïbes.
Il y a beaucoup de musiciens de jazz qui ont la famille, ou des mamans, ou des oncles indiens.
Chuck Berry.
Chuck Berry.
Jimi Hendrix.
Aussi, Hendrix,
Oscar Pettiford, l'un des plus grands bassistes.
Ça, c'est un sujet.
Voilà, c'est des sujets.
C'est un sujet dont on ne parle jamais, ce qu'on doit aux Indiens.
En tout cas, Dominique, le livre est bien arrivé, il nous est parvenu. Elle a envoyé en 2 exemplaires parce qu'elle le tenait absolument. Et c'est vraiment alors le cas de le dire. On rappelle l'adresse d'Africa Radio, 33 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75-011 Paris. Ce livre de mon cauchemar français à mon rêve américain, Ma vie d'immigré illégal, est paru aux éditions Les Trois Colonnes. On espère vivement qu'elle va venir nous un en jour. Parler ici. C'est un livre écrit vraiment et qui est dédié d'ailleurs à ses parents qui lui ont appris le dépassement, et notamment, dit-elle, à son père qui n'est plus, mais qui leur a donné cette motivation. Coup de chapeau quand même, parce que ça écrit, et puis ça écrit aussi, alors avec des plumes, oui. Illustres. Alors, si on vous parle de Djibril Tamsirnian, là, c'est... Alors là, on est...
on est chez l'inspecteur et mes visites... mes visites d'après-midi chez l'inspecteur.
Ouais, mais Dibango, revue fait de se rendre samedi dernier et dimanche dernier au bâtiment qu'on appelle la colonie, pour suivre l'anniversaire des 70 ans de présence africaine.
Oui, des fois,
au lieu de venir chez Edma Kossa, il y a autre chose à faire.
De temps en temps, Manu est artiste, donc il a des concerts. Et puis aussi, chez Makossa, on trouve des perles. Hein. Cette fois-ci, ce n'est pas le livre, mais avec quelqu'un derrière le livre.
Oui.
Donc tu vas nous parler peut-être de ces... En deux minutes, résume-nous un peu le truc.
Nous avions autour de nous, lors de sa dernière visite, et nous, on l'appelle Fifi, mais en fait, c'est Rafiatou Djibril Tamsirnian, qui est Madame Bouchri aujourd'hui, qui venait me rendre visite parce qu'elle était là accompagnée de son père, qui venait recevoir le prix, comme vous savez, et qui venait donc témoigner. Il est un des rares vivants, il y en a d'autres des vivants, mais un rare vivant de l'aventure de présence africaine. Mm-hmm. Donc Dibango l'a trouvé à la maison, je me suis arrangé parce que je lui ai dit que Manu allait passer. Alors là, qu'est-ce qu'elle a fait la petite, à ton avis? Elle a pris un Uber, etc. Et comme par hasard, Dibango l'a trouvée assise, qu'il attendait un peu. Bon, elle venait un peu pour faire un peu, c'est comment vous appelez là, les photos, la façon là.
Oui, façon les selfies, mais il y avait quand même d'abord aussi le contenu.
Oui,
pour
elle a eu le
livre.
Temps de sortir, c'est comme Manu était là, celui-là que tu es là, celui-là, il est signé.
Oui.
Donc c'est celui qu'elle m'avait offert, elle me proposait un deuxième qui n'était pas signé. Alors moi, généralement, comme tu connais, j'ai dit, bon, Dibango, écoute, t'es gentil avec moi, je te laisse prendre celui qui est signé. Alors, maintenant, on va parler de ce qu'il y a dedans, quand vous voudrez.
Voilà, ben, c'est l'heure.
Ben oui, Sundiata ou l'épopée mandingue, c'est vrai, quand on parle de Sundiata, on parle de ce grand personnage, c'est l'ancêtre vraiment du grand mandingue, nos amis du Mali et d'ailleurs le connaissent. On parle de celui qui a dépassé Alexandre, quand on dit Alexandre, il s'agit bien d'Alexandre le Grand, dans la dimension petit-fils, fils du buffle et puis fils de Sogolon. On a parlé de Sundiata, inspecteur Makossa, on en parle encore plus aujourd'hui, parce que finalement c'est un repère historique.
Alexandre a un père qui s'appelle Philippe de Macédoine. Alexandre n'a rien inventé tout seul. Hein. Il a un père qui est déjà quasiment, bon, on va dire de notre temps, un bon grand dictateur. Quoi. Donc il va faire les armes, mais il va surtout apprendre l'histoire de la philosophie parce qu'il a pour maître quelqu'un qui s'appelle Aristote. Alors que monsieur dont tu parles, c'est 13e siècle de notre ère, c'est 1235. Hein. C'est celui qu'on appelle Sundiata. Hein. Et on connaît Sundiata, c'est un garçon donc au niveau symbolique infirme, l'enfant de Sogolon, qui va venger sa mère qui a été, on va dire, humiliée par une épouse qui est dans le même mariage. Et que cette histoire-là va devenir, au fait, non plus de la légende, mais la fondation du royaume du Mandingue. Ce qui est intéressant pour nous, pour vous d'abord ici, c'est que la légende prétend, ce livre-là, il y a plusieurs versions de Sundiata. Celui qu'on a sous les yeux, on a celui-là, parce que ce monsieur-là fait partie de l'équipe de présence africaine.
Mais
c'est sa thèse d'étudiant. Celui-là, il est sorti en 60. Et c'est la première fois qu'on historicise une légende. On essaie de lui donner des bases comme en archéologie. Il y a d'autres versions de Sundiata. Ce que je voulais vous dire, que vous intéresse vous aussi, Sundiata dans cette guerre, où il se lève, arrache un arbre, se lève sur sa jambe cassée pour aller venger l'honneur de
sa mère.
Eh bien, qu'est-ce qu'il fait, lui, au retour de cette bagarre-là? C'est ça que vous concerne. Il fait revenir un monsieur qui s'appelle... Balafaseke, qui va piquer le balafon chez Soumaro et ramener le balafon. C'est de là qu'il vient de mourir quand vous Salif Keita aujourd'hui, qui lui est hors de sa caste. Salif Keita est descendant.
Est un noble.
Il n'a pas le droit de chanter. Ni de faire l'homme.
Il est hors cadre.
Ni le faire l'homme de spectacle à la Dibango.
Mourir quand Dibango, lui, il n'est pas griot. Donc il a le droit.
Sachez que c'est avec ce monsieur-là que le Popé se donne un orchestre harmonique pour de bons jours. Je dis ça pour Dibango. Donc retenez ce nom-là, c'est Balafa Seke.
Alors il faudra qu'on se penche sur lui. Pour ceux qui nous écoutent, et notamment nos amis du Grand Mandé, du Mali, parlent de Soundiata, l'homme au nom multiple, et surtout contre qui les sortilèges n'ont rien pu. C'est un personnage qui est fort et qui inspire d'ailleurs.
C'est un surnom, c'est un prédicat dans toutes les vieilles civilisations. Mm-hmm. Vous avez toujours des épithètes ou des qualificatifs, quoi, qui vous désignent quelques informations sur une personne. Donc sur celui-ci, on retiendra tout simplement que la légende veut qu'il s'est levé de sa propre volonté, alors qu'il avait un pied qui ne fonctionnait pas, n'est-ce pas ? Ce que nous on retient, c'est pas tellement ces métamorphoses, parce qu'en fait ce qu'il y a derrière, c'est la vieille croyance de l'Africain dans la métamorphose. Ce n'est pas la légende qu'il a changé, qui n'était plus bien fait. Vous trouvez ce type de réflexion chez tous les descendants d'Africains. Mais ce qui nous intéresse là, lui, en tant que la thèse de monsieur-ci fait cette thèse, il fait ses études en 58 à Bordeaux, il publie cette thèse en 60, mais pour faire ce livre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a réuni tous les griots du monde mandingue. Donc ce résultat-ci n'est pas une thèse d'université comme on le croit, mais carrément tout le savoir oral qu'on peut raconter dans l'Afrique de l'Ouest depuis 1235.
Un très grand monsieur, hein, Djibril Tamsir Niane, c'est une plume, quand on a parlé de l'université de Bordeaux, de Amanou, c'est quelqu'un qui a un parcours édifiant et qui fait autorité.
En plus Bordeaux,
il faut-il encore le dire. Et puis, évidemment, pour les jeunes qui nous écoutent et qui se demandaient, tiens, mais est-ce que c'est un nom qui vous rappelle quelque chose? Oui, parce que c'est le papa de feu Katoucha Niane, le top modèle, donc révélé sur les podiums, notamment,
avec
une histoire incroyable.
Tu es très contemporain, là.
Voilà, mais pour le dire, pour la progéniture, un spectacle, parce que beaucoup, d'ailleurs, disaient que c'est, à un moment donné, c'est la fille d'eux, mais c'est, non, on dit, c'est le papa d'eux. Voilà.
C'est important quand même pour les jeunes qui sont nés ici, de savoir qu'il y a un passé, parce que ça, leur passé est très restreint, en fait, quand il y en a. Donc, nous, dans cette émission, on peut se permettre quand même de temps en temps d'avancer quelques pions de connaissances en dehors. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs musiques. Ça, c'est une autre musique.
Eh bien, vous serez bénis par les Africains, puisque vous aurez rapporté les cérémonies du 70e anniversaire de présence africaine. Aussi. Et surtout, Djibril Tamsir Niane est celui qui a écrit le 4e tome de l'histoire générale de l'Afrique que l'UNESCO va consacrer à l'Afrique depuis 62 jusqu'à 99 à peu près. C'est lui qui a fait tout le siècle sur le Moyen-Âge.
On va passer à l'autre musique.
Eh oui, juste après un petit passage par la réclame, me fait signe Hugo.
Le dimanche, c'est Manu Dibango
sur Africa Radio.
À ce dimanche de Amanou, il a été question d'ouvrages, et c'est important, et pas n'importe quels ouvrages, parce qu'on a les Lumières et la Minute de l'Inspecta.
Voilà, et puis l'archevêque, là, qui nous pose des questions.
Absolument, cardinal Robert Sarah.
Voilà, le cardinal.
Pose des grandes questions. Mais alors, vous pouvez retrouver toutes les livres. D'ailleurs, on met les couvertures et on met les éditions sur le site grâce à Salah Eddine Gakou. Présence africaine, Inspecta, on peut rappeler l'adresse, d'ailleurs.
Parce oui, que Présence africaine réédite, un livre qui est sorti en 1960. Ça ne vous a pas échappé, l'année de l'indépendance africaine.
Aussi. Bon, je n'étais pas là pour témoigner. Bon, voilà.
Moi, bien.
Alors, pour le dire, l'adresse, oui, l'adresse physique, parce que Présence africaine, de Amanou,
c'est toujours à la rue des lieu. Écoles.
C'est rue des Écoles, c'est sa dernière adresse, c'est un connu de nos services.
Dans le 5e. Hein.
Bon, le fondateur est mort en 80, après le festival de Lagos, rencontré à Bacha, l'a fait mourir. Vous voyez ? Et donc, ça, c'est aussi une réflexion sur la démocratie, parce que tout à l'heure, vous avez relevé un texte de M. Achille Mbembe qui disait « Comme être étranger chez soi ». Et je vous ai rappelé que c'est un vieux thème qui date du bois. Mais ce monsieur-ci, c'est carrément aujourd'hui.
On revient à une autre musique, en deux parties donc.
En deux parties, parce que finalement, lui aussi c'est un parcours alors qui s'est achevé vraiment brutalement. Il y a 12 ans, le 18 octobre 2007, le parcours de Lucky Dubby, tombé donc voilà à la suite d'un assassinat et sous les yeux de ses enfants, un artiste alors reggae man pour beaucoup, mais Lucky Dubby de Amanou, c'était plus que ça, parce qu'il n'avait d'ailleurs pas commencé que par le reggae.
Non, c'est un monsieur que j'ai eu la chance de connaître d'ailleurs à un festival, c'était en Allemagne, c'était à Wolfsburg, c'est la dernière fois qu'on s'est vu. Non, on s'est vu après à Cape Town. Et c'est un monsieur qui était habité non pas seulement par le reggae superficiellement, mais son intérieur était habillé. C'est quelqu'un qui pensait profondément son pays, dans une époque assez violente déjà, hein, parce que finalement il a fini dans la violence, et on sait très bien que l'Afrique du Sud, elle est très belle parce qu'elle est très violente aussi en même temps. Et donc c'est un monsieur à réflexion qui avait une vision plutôt panafricaine par les temps qui courent. Hein, c'est parce que quand on parle de panafricanisme, on rigole un tout petit peu parce que chacun garde son petit bout de gras là. Hein, on est africain, oui, mais bon, voilà. Et encore que tu es dans un pays, tu sais même pas si tu es du pays parce que l'ethnie est là qui domine tout ça. Hein, ça nous fait des problèmes incroyables. Bimba a parlé un tout petit peu de ça tout à l'heure. Hein. Oui. Bon, on n'est jamais chez nous, en règle générale. C'est un monsieur avec qui on pouvait discuter de tous ces problèmes-là, en dehors du fait que c'était un excellent chanteur, il avait des textes, ma foi, assez profonds, et puis sa musique, les mélodies étaient belles.
C'est quelqu'un qui a porté d'ailleurs cette identité sud-africaine jusqu'au bout. Lui, l'enfant d'Hermelo, qui a d'ailleurs failli mourir très très jeune. On l'appelle Lucky, d'ailleurs son prénom c'est Philippe, oui. Parce qu'il est touché par une grave maladie. Et les gens, même la famille, ne misent même pas beaucoup sur lui en se disant « bon, il est là, s'il vit, tant mieux, s'il ne vit pas, tant pis ». Les années passent et l'artiste finalement va s'épanouir. C'est quelqu'un qui suit un cursus scolaire parce que ses parents insistent pour qu'il le fasse, mais il profite des vacances pour écrire des textes composés un peu à la matière d'un storyteller, d'un journaliste. Il a toujours un calepin. Et un jour, il se dit, je vais les chanter moi-même, puisque finalement, la musique est le meilleur des vecteurs. Et il va fonder un groupe, The Love Brothers, qui va être vraiment celui qui va le catapulter. Et dans cette région du Transvaal, où on a vraiment plusieurs mélanges en termes de couleurs sonores, il va se créer cette identité, alors qui n'est pas du tout reggae au départ de Manu. C'est vraiment... Déjà, il chante dans sa langue.
Et donc, c'est venu... Comme on dit, au 4-21, en plusieurs coups.
Au 4-21, en plusieurs coups. Et beaucoup d'ailleurs ont été surpris, parce que lui dit « Je ne me revendique pas faisant du reggae comme nos amis voudraient qu'on le fasse pour Bob Marley, mais c'est parce que c'est une musique dont le message me touche. » Et puis ensuite, au niveau des arrangements, les collaborations vont faire qu'il va se rapprocher beaucoup plus de la ligne reggae artistiquement. Mais au début, on est vraiment dans quelque chose qui est très South African. On est quelque chose avec du Kwaito. On est vraiment avec
roots, quoi.
Roots, très très roots, jusque dans les textes et les paroles, parce que il est quasiment pas question d'anglais même au début. Il chante complètement dans des langues sud-africaines.
Exact. Et comme ils sont luxuriants de ce côté-là, et ils ont gardé ça d'ailleurs. Je sais pas combien de langues officielles ils ont, hein, parce que c'est le seul pays qui est en dehors de l'anglais et du flamand, parce qu'il y a du flamand dedans. Ils ont des langues vernaculaires assez puissantes.
Hein. Oui, puissantes. Et puis bon, alors évidemment, Hugo me fera des signes en disant « Oui, l'Afrique du Sud, évidemment, a gagné le mondial de rugby. » Et quand ils font ce parcours avec ce premier capitaine noir de l'équipe sud-africaine présentant ses trophées dans les townships et ailleurs, notamment celui de Soweto, les musiques qui jouent à l'intérieur sont... pour la plupart des musiques de Lucky Dobby, qui est quelqu'un qui est jusqu'à présent regretté, parce que les gens se disent c'était l'artiste qui aurait pu encore porter plus loin le flambeau. Il a eu un gros succès, mais tu le disais, le Doua Manou, c'est comme vraiment une mélodie inachevée, la vie de Lucky Dobby.
Oui, c'est exact. C'est marrant, dans ma vie, j'ai connu deux Lucky dans la musique. Lucky Thompson, c'était un terrible saxophoniste ténor américain. Il portait le nom de Lucky, mais il est mort pratiquement grabataire. Et puis, il y a Lucky Dobby qui est mort, il n'était même pas encore au zénith de sa vie, que sa vie a été prise par des compatriotes à lui, comme d'habitude.
Et oui, tué à côté de sa voiture. Alors, dit-on, parce que les gens voulaient lui prendre sa voiture et des objets, mais les tests continuent encore d'être interprétés. Et pour remonter alors aux premières heures, parce que le Doua Manou l'a dit, on va faire une première partie ce dimanche et l'autre le dimanche suivant. Mmh. L'enfant du Transvaal, parce que lui, voilà, il parle de cette identité. Et il y a toujours, comme pour Makeba, qu'on évoquait la semaine dernière, cette idée de country boy. Le côté country, c'est pas dans le sens où on l'entend aux États-Unis, mais c'est l'enfant du village, l'enfant de la terre, et qui se revendique de la terre et de ce côté.
Ben, vu l'apartheid qui était bien prononcé, ces gens-là, ils avaient même pas, la plupart d'entre eux, ils avaient une notion vague du continent. Ils étaient obligés de se replier sur eux-mêmes, finalement jusqu'au village, même pas en ville, le village. Et de là, avec un peu plus de chance que d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui pensaient comme lui, mais c'est lui qui a porté haut le flambeau de ses langues. Et puis après, bon, ben le temps qu'il soit connu, il a disparu déjà.
Et oui. Et sa musique avec des résonances très très religieuses, surtout vers la fin. Il y a un album qui s'appelle Respect qui est sorti peu de temps avant sa disparition. Il était de plus en plus question de vraiment de, voilà, de ce qu'il y a après, de la réflexion par rapport à Dieu. Et Dieu toujours très présent quand on entend dans les titres comme Kudala Gikunchenga. C'est un morceau. Alors nos amis du Lady Smith pourraient bien l'adapter parce que là, il y a cette idée de chanter ensemble, du hands clap ou alors de taper sur les bottes.
Ouais, ouais, on est vraiment dans le cœur du sujet. Les chorales spontanées, là.
Spontanées. Idem dans le morceau Sondela, qui va être un peu une transition. Et après ce Sondela, c'est vraiment l'hymne qui va le révéler, c'est-à-dire le Prisoner. Et dans Prisoner, c'est vraiment alors l'apartheid qui, sur le plan politique, touche à sa fin, mais qui se durcit aussi, parce que voyant les espoirs, finalement, d'une sortie de Mandela se révéler de plus en plus, le régime de Pretoria durcit d'ailleurs les choses au niveau des ghettos. Et au niveau de la répression.
Durcie et puis squatte carrément l'économie.
Tout à fait.
Hein? Donc les dés étaient jetés quand Mandela sortait, à cette époque-là d'ailleurs, j'étais au Cameroun. Il y avait un double jeu dans le jeu, quoi. Mm-hmm. Il y avait ce qu'on voyait, bah, enfin libéré et tout ça. Et puis bah, les autres, ils disent, bon, bah, nous, on prend les cordons du portefeuille. Voilà.
Et prisoner, c'est pas être simplement dans une prison derrière des barreaux, mais c'est être prisonnier d'un régime, celui de Pretoria, et même après cette fin d'apartheid, ben finalement, il y a toujours cet apartheid invisible dans Lucky Dub, il parle, et le morceau Prisoner va être vraiment une onde de choc dans toute l'Afrique, où les gens vont découvrir, ben voilà, cet artiste qui a encore les locks très très courtes, qui a vraiment le regard très vif, et qui sur scène fait des choses exceptionnelles.
Voilà, donc comme première partie, on va écouter ces trois-là.
Absolument, on va écouter ces trois titres et ce sont évidemment d'autres tubes qu'on va découvrir la semaine prochaine parce que vous le savez, Lucky Dobby c'est quand même un sacré répertoire, une carrière mais vraiment dense, dense, surtout sur le plan scénique de Amanou parce que il était constamment on the road. Quand il est pas en Hollande, il est en Allemagne,
ouais,
il tourne,
croisé, quoi.
Et il était ambassadeur de la lutte contre l'ulcère de Buruli, alors que beaucoup n'en parlaient pas à l'époque de cette maladie qui est terrible et qui présente des stigmates un peu comme la lèpre. Il s'en était fait ambassadeur. Il avait dit « AIDS is no party ». C'est vrai que le sida fait des ravages, mais il y a aussi ces maladies dont il faut parler. Il en avait été aussi un digne ambassadeur.
Voilà, et d'une façon élégante, il faut dire qu'il avait de très beaux arrangements. Parce qu'on passe toujours au-dessus de ça, c'est toujours do, ré, mi. Voilà, mais là, il y avait une belle écriture. Derrière tous ces textes, il y avait toujours des très beaux arrangements. Il faut en tenir compte parce que on parle jamais, ou rarement, en fait, des arrangeurs, des musiciens et tout ça. On parle de la vedette, on oublie la cuisine.
Et oui, hein? Une belle cuisine dans cette première partie du jukebox consacré à Lucky Dobby que va nous envoyer Hugo.
Le jukebox de Manu Dibango
avec Robert Tito sur Africa Radio. We'll be right back.
manesa koso wendi wangubani Kuma unge kulumusi Kukawa nguguchi Izinganesa koso wendi wangubani Kuma unge kulumusi
Dis
discothèque de Manuti Bango
sur Africa Radio.
Jukebox de Manuti Bango
avec Robert Tito
sur Africa Radio.
Come together.
discothèque de Manu Dibango
sur Africa Radio.
I am a prisoner, chantait Philippe Lucky Debé. Alors c'était Philippe Debé, c'est très rare qu'on ait des noms d'ailleurs sud-africains très courts. Alors il faut dire que lui il avait vu le jour en 63, mais généralement il y a toujours des noms qui sont très très longs et qu'on a du mal à prononcer ici.
Oui, en général, en plus avec le clux, je ne sais pas quoi. Il y a un autre prisonnier, James Rowan avait chanté aussi un prisonnier, mais ce n'était pas le même.
Une autre manière.
Voilà, il était prisonnier aussi, mais pour d'autres circonstances, quoi. Mais prisonnier quand même de quelque chose. Et Lucky, ma foi, c'est un grand regret, hein, parce que c'est quelqu'un qui promettait, qui aurait pu avoir une carrière internationale, parce qu'il était au début de quelque chose. Je dis, il faisait... Ah ouais, mais je l'ai rencontré deux fois, en dehors de chez lui, une fois en Hollande, à Rotterdam, et une autre fois donc à Wolfsburg, et il tournait beaucoup comme Hugh Masekela, tu vois.
Alors c'est un regard aussi qu'on porte sur les arrangements et la musique, on le disait, mais il faut pas oublier, je parle sous le contrôle de l'inspecteur, que quand on est Lucky Dobby et qu'on est un artiste qui, même au moment où on dit que l'apartheid est terminé, qu'on est un artiste qui veut se produire des fois dans son propre pays, il y a encore des zones qui sont entre guillemets blacklistées. C'est-à-dire qu'on ne joue pas partout, qu'on n'a pas le même public.
Il arriva à Marley lui-même de prendre deux balles dans la poitrine sur un concert.
Oui, vous vous souvenez? C'est vrai.
Donc Lucky Dobby, on
Peter Tosh,
voilà. Peter Tosh, lui, l'en est mort.
Voilà.
Lucky Dobby aussi, pareil. Quelquefois, la musique peut mener à la politique.
Ouais. Avec un propos qu'il était vraiment, en tout cas en ce qui le concerne. Hein.
Ou à la prophétie.
Ou à la prophétie. Parce qu'on parlait de croyance souvent au pays des Isangoma et des autres. C'est un mélange assez, assez chargé, Doa Manou, parce que c'est toujours, on est très choir church, mais en même temps, en Afrique du Sud, on a aussi quelque chose qui est très chargé au niveau spirituel. Hein.
La charge elle est forte, hein, forcément. Après l'apartheid, de cette façon-là, on ne sort pas indemne de ça. Hein, et d'ailleurs, pour sortir de là, je suis content d'ailleurs à ce sujet-là que on a avancé un pion dans le rugby. Tu te rappelles du premier film quand il y avait un commandé là,
Invictus.
Voilà. Et quand il n'y avait pas encore, il n'était pas encore question réellement des Noirs dans l'équipe. Et voilà que le capitaine, maintenant, on avance quand même d'une certaine façon, hein, tu vois. Et le capitaine, il est noir. Alors, est-ce que ça va changer une virgule dans quoi? Je ne sais pas. Mais probablement, on a avancé d'une virgule.
C'est ce que Morgan Freeman, qui d'ailleurs était celui qui avait joué le rôle de Mandela de Invictus, disait « It's one step forward ».
Ouais, on a eu d'autres Mandela à l'écran. Ouais. On a eu plein de Mandela à l'écran.
Ouais.
Beaucoup d'autres encore.
Beaucoup d'autres.
Très peu d'Africains, d'ailleurs.
J'en connais
beaucoup d'Américains.
Je ne vois que des Américains.
Ou le Britannique, alors, en parlant d'Idriss.
Cela ne me gêne pas. Voilà. Pour moi, Mandela est universel.
L'universalité. En tout cas, nous, on était chargés dans ce studio ce dimanche, parce que, hors micro, il y a quelqu'un qui a un t-shirt, du moins un sweat Cowboys. Lui, il n'est pas. Ou bien alors un cowboy,
et une casquette.
C'est un ennemi.
Et une casquette.
Ça, c'est le western, ça.
Et il y a Bekwedi, qui a, avec qui on chantonnait tout à l'heure.
Et Yab, c'est venu, lui.
Yab, c'est venu. Bon, il n'était pas seul sous un béret.
Prends sur toi, Yab, tu prends le cowboy, là. C'est le western, ça. Ça, celui-là, je le combattrai.
Tant que j'ai pas union, ça va.
Jusqu'à mon dernier souffle.
Et une lady sous un béret, à qui on dit bonjour également, qui est venue nous voir ce dimanche, parce que c'est jamais isolé, hein.
Non, et puis elle a le verbe fort, hein.
Quand même, bonjour.
Bonjour.
Un petit bonjour.
Bonjour, Patricia Dikasang, et à quoi je suis heureuse d'être avec vous.
Et elle a dit en une phrase, c'est quand même le timing, hein. Patricia, à qui on va montrer une photo. Alors on est tombé sur un document de l'association, c'est pour finir Hugo, de l'amicale des anciens élèves du lycée Jean de La Fontaine de Château-Thierry, qui a été fondée en 1874.
Quand même, j'y étais pas, mais enfin, voilà.
Et on tombe sur donc la promo 1951-1952, et on tombe sur quelqu'un de drôlement élégant. Alors vraiment, on était habillés, ça badinait pas.
Oula.
Emmanuel Djoké Dibango, très bon élève.
Mais il avait quel âge, là? Il est à l'école, là.
Oh ben, faites le calcul, hein, on va pas le dire. Et on va d'ailleurs.
Non, mais là, c'est le lycée, c'est pas l'école primaire.
Voilà, oui, mais alors c'est quand même une sacrée touche. Et puis.
C'est en France.
C'était le clin d'œil en saluant tous les amis de l'époque. Parce
ça se voit pas à la radio, c'est dommage.
Ah ben non, mais on aurait une petite capture d'écran. Et puis Hugo nous fait signe que pour ce dimanche, Doa Manou, c'est terminé, mais qu'on se retrouve forcément la semaine prochaine.
Rendez-vous avec plaisir la semaine prochaine. Et comme d'habitude. Mmh. Mmh.